1, 2, 1, 2, 3.
Peux-tu me faire une voix
plus claire? Good morning, Vietnam!
Tonight we present a very warm little story called Kill With Time.
On a un
intro
dans le studio, on laisse voir, on lui met un casque, il parle dans le micro.
Il suffit que tu fermes ta gueule. À toi, tu passeras à l'antenne.
S'écoute, ça va arriver les voisins.
Salut à tous et bienvenue dans l'émission Décadré sur PFM Radio 99.9. Alors on commence sans plus tarder avec l'ensemble de la troupe. Alors nous avons Ange, salut Ange.
Bonjour.
Voilà, Ange, ça va ?
Très bien, et toi ?
Oui, ça va super, content de te voir. Et oui. Benjamin aussi, bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir Benjamin.
Bonsoir.
Alors c'est toi qui va commencer la chronique.
Oui.
Alors vas-y, on te laisse lancer les news.
Donc c'est parti pour les news de la semaine. Alors on a appris que Spider-Man allait être dans le nouveau Marvel Civil War.
Oui.
Donc qui sort en avril.
Interprété par Tom Holland.
Ouais, interprété par le jeune Tom Holland. Donc là on a pu voir une image tout en synthèse. Donc on espère que le costume aura quelque chose d'un peu organique. Parce que bon, Spider-Man.
C'est vrai qu'on a l'impression qu'il il a des collants verts partout sur la tronche.
Ouais, c'est-à-dire qu'on sait pas trop ce qu'il crache du coup.
Ouais.
Est-ce qu'il crache de la toile ou autre chose?
Oh bon, bah, bravo.
Ensuite, on a eu la nouvelle bande-annonce de Ghostbuster. Alors le nouveau Ghostbuster qui est une suite reboot, c'est-à-dire que c'est pour relancer une licence.
Ouais.
Et une suite des deux premiers faits par Ivan Reitman et cette fois-ci réalisée par Paul Feig. Donc Paul Feig qui est le créateur de Freaks and Geeks,
oui.
Le réalisateur de Meilleurs Amis ou encore de Spy dernièrement.
D'ailleurs je me fais par une petite parenthèse, Freaks and Geeks que vous pouvez retrouver sur Netflix.
En effet, ouais,
entièreté de la
série. C'était la grosse parenthèse pub.
Ouais.
Et la bande-annonce donc, nous laisse entrevoir un groupe de chasseurs de fantômes de femmes. Donc ça va apporter de la nouveauté.
Ouais.
Et ce qui est très rigolo, c'est que la secrétaire est un secrétaire. Et c'est Chris Hemsworth, l'acteur de Thor, qui joue le secrétaire. Donc ça risque d'être assez comique. Les effets spéciaux, il y en a partout. C'est vert, c'est bleu, c'est rouge, c'est coloré. Et bah moi je dis, allez on y va. Ensuite, une autre nouvelle. La femme de Nicolas Winding-Refn, donc Liv Corfixen,
oui.
Va sortir son film My Life, directed by Nicolas Winding-Refn d'ici fin avril.
Donc un documentaire alors.
C'est un documentaire, c'est un film de famille, c'est un film très personnel. Je pense que si on connaît un minimum Reft, ça peut être très bien.
D'accord. Ouais. D'autres infos, Benjamin, à nous confier ?
Bah, je pense qu'on peut se lancer sur une toute dernière info, possiblement.
Oh. Hein. Allez-y.
Donc le Star Wars, vous le savez, a été déplacé.
Oui.
Le Star Wars 8. Et du coup, Avatar qui était programmé en décembre, c'est aussi déplacé en mars parce que Avatar a peur d'affronter Star Wars.
Ah bah tu m'étonnes.
Bah, faut dire que des hommes bleus versus des étoiles, ça fait un peu gros.
Bon
voilà.
Bon bah de ce fait, merci Benjamin pour ces news.
Parti.
Et on va enchaîner avec la chronique de Ange. Allez, c'est parti.
Sur Deadpool.
Bonjour à tous.
Hey,
bienvenue sur PFM 99.9. Aujourd'hui, j'ai décidé.
Oh, calmos mon gars.
C'est vrai que là t'exagères un peu.
Bon, OK. Nous avons décidé de vous parler d'un film sorti tout récemment. Attention, roulement de tambour, messieurs.
Ok.
Deadpool.
Ta-da.
Alors lui, il est vraiment classe.
En effet, depuis sa soi-disant apparition dans X-Men Origins Wolverine,
est-ce qu'on peut éviter de parler du sujet qui
sert pas.
On va pas en faire un débat, j'évoque juste l'anecdote.
Eh ben, mauvais choix.
Il n'y en a pas vraiment d'autres,
du point
fait.
De vue de la production, c'est bien Deadpool qui est inscrit au générique. Et niveau personnalité, il correspondait assez.
Non mais c'est une vaste blague, depuis quand Deadpool lâche des lasers avec ses yeux?
Oui bon ok, il a jamais fait ça. Mais c'est pas vraiment ça le souci.
Ils auraient juste dû pas l'appeler Deadpool.
Voilà, au moins un qui est d'accord avec moi.
De toute façon, dans tous les cas, c'était à chier. Et ça tout
t'es
le
pas
monde...
obligé d'être si vulgaire.
Oh. On parle de Deadpool ou pas,
les gars?
Ce n'est pas parce que lui, il est, que tu es obligé de
l'être. Oh mais c'est bon, j'ai rien dit.
On est à la radio tout de même.
Et la liberté d'expression, t'en
fous. Wow. C'est bon? C'est fini? Je peux reprendre mon sujet?
Ouais, bien sûr. Bah, excuse-nous.
Bien. Ryan Reynolds a repris le rôle de
Franchement,
Deadpool.
Franchement, parce que t'es obligé de dire... Repris.
La ferme!
Et c'est moi qui est vulgaire, maintenant.
Bon, suite au dérapage de Deadpool dans Wolverine, il fallait réaffirmer ce personnage dans son propre film. Mais que faut-il pour faire un bon film Deadpool?
Moi!
Je ne suis pas vraiment convaincu, là. Je crois que je vais plus vous écouter, en fait.
Ça va être difficile, vu qu'on est dans ta tête.
Il nous faut donc une bonne dose d'autodérision, de la violence...
Gratuite.
Presque gratuite.
Du sexe.
Beaucoup.
Non.
Juste ce qu'il faut.
De l'action et un personnage qui tient la route.
Et ça, c'est vraiment essentiel.
Non mais c'est pas possible, vous allez commenter tout ce que je dis.
Et bah quoi? Mais c'est parti. Ouf. Ouf. Bon, Deadpool était un film que j'attendais avec impatience depuis très longtemps. Il est le anti-héros de l'univers Marvel, aux côtés du Punisher, bien entendu. Wade Wilson est un mercenaire à la retraite, en quelque sorte, prenant comme petit boulot de casser la gueule, ou mal menacer, malmener, ou faire peur à des gens qui en ont besoin, style des harceleurs, violeurs, etc. Mais un jour, il apprend qu'il est atteint de plusieurs cancers. En bref, il va mourir. Il tente alors sa chance auprès d'une organisation secrète qui peut peut-être le sauver. Ce qui lui confère ses pouvoirs de régénération et sa sale tronche. Jusque-là, le pitch des origines de Deadpool est assez bien respecté. Mais que veut Deadpool dans ce film? Il veut récupérer son beau visage et sa belle nana. Donc il traque celui qui a fait cette merde. Ouah, ça a l'air bien pourri, il dit comme ça.
Quoi?
C'est les grandes lignes au moins.
Mais vous êtes revenu, vous?
Oui, on était juste parti prendre un café. Pourquoi, on t'a manqué? Bon, pas grave, je continue. C'est ça, fais comme si on n'était pas là.
Je vous ai préparé un petit les plus les moins de ce film. Il a été réalisé par une tête de cul surpayée.
C'est pas moi qui l'ai dit, c'est écrit dans le générique de début. Tête de cul du nom de Tim Miller, réalisateur de Scott Pilgrim. Qui a fait du bon boulot à mon goût. Le film se délimite en plusieurs parcelles d'ellipses temporelles. L'histoire commence sur une bonne scène d'action avec coups de feu et de voitures explosives coupées que par quelques moments où Wade Wilson nous raconte en voix off comment il en est arrivé là. Ceci exactement comme dans les comics. Le temps se fige autour de Deadpool pour qu'il puisse s'adresser aux spectateurs. Tout s'arrête, seul Deadpool vit, et franchement, ça rend bien. Ce qui nous fait déjà deux points positifs. On respecte l'adaptation du comics et la personnalité du personnage, qui est le seul mec à briser le quatrième mur dans l'univers Marvel. Nous nous retrouvons face à des scènes d'action magnifiquement bien gérées, agrémentées de petits ralentis, nous permettant de voir les balles sortir des flingues et traverser la tête, ce qui est en tête, bien sûr, de l'univers Deadpool. Un univers trash et franc et direct. Le scénario a bien sûr été adapté au grand public pour que les non-connaisseurs puissent l'apprécier avec une magnifique histoire d'amour.
Avec une pute.
Oui, bon, ok, avec une pute, mais c'est quand même une belle histoire.
Ouais, c'est vrai.
Enfin, cette histoire est bien dosée et fonctionne magnifiquement bien avec le personnage de Deadpool. Et là, il est temps de parler du sujet qui fâche.
Pourquoi tu dis ça?
Parce que je ne suis pas totalement content. Il a le beau costume rouge et noir, ok. Il est quelque peu sociopathe avec un humour très spécial. Il est seul à savoir... ou à se dire qu'il est dans un film. Bah oui, on ne sait pas vraiment ce qui se passe exactement dans sa petite tête. Il fait des références de films énormes, mais l'élément essentiel de Deadpool, que je surkiffe dans les comics, ce sont ces deux petites voix dans sa tête. Et ça me rend triste. La grande description à dire de Deadpool est qu'il est schizophrène, mais je ne vois rien de ce côté. Pendant tout le film, certes, il passe... pour un dingue à parler aux spectateurs, à raconter son histoire, à faire des mises en abîme, mais jamais on entend parler des deux petites voix. Alors vont-elles apparaître dans le prochain? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est trop difficile à gérer vu qu'elles ne sont pas visibles? Rappelons que Ryan Reynolds l'a déjà fait dans The Voices avec son chat et son chien, mais là en fait on n'a aucune info. En tout cas, un indice nous prouve que la santé mentale de Deadpool ne va pas en s'arrangeant, avec un petit « je te dérangeion » à la fin du film. Bref, j'ai adoré Deadpool, quoi qu'il en soit.
Nous
moi
aussi.
Et je le conseille fortement aux plus de 12 ans. Il y a bien sûr quelques défauts, mais il n'est pas raté pour autant. On retrouve très bien l'essentiel du personnage, ce qui est le plus important. Et tout cela accompagné par une superbe bande-son de la même envergure que les Gardiens de la Galaxie. Je vous laisse d'ailleurs en profiter. Bonne écoute et à la prochaine.
Ah, ciao.
Bye bye.
Hey yeah, I wanna shoot. Baby.
Packed in your stack, especially in the back. Brother, wanna thank your mother for a butt like that. Can I get some fries with that shake, shake, booby? If looks could kill, you would be an Uzi or a shotgun. Bang, what's up with that thing? I wanna know, how does it hang? Straight up, wait up, hold up, Mr. Lover. Like Prince said, you're a sexy mother. Well, I like them real wild. B-boy style by the mile. Smooth black skin with a smile. Bright as the sun, I wanna have some fun. Come and give me some of that yum yum chocolate chip honey dip. Can I get a scoop? Please. Baby, take a ride in my coupe. You make me wanna shoot.
Ooh, how you doing, baby?
Shoot.
No, not you. You,
shoot.
The bow-legged one. Yeah. What's your name?
Shoot.
Damn, baby, that sounds sexy.
Here I go, here I go, here I go again, okay. Girls, what's my weakness?
Yeah.
Okay. know that don't make me see what I want, slip, slide to it swiftly. Felt it in my hips, so I dip back to my bag of tricks. Then I flip forward, dip, made me wanna do tricks on them. Lick them like a lollipop should be licked. Came to my senses and I chill for a bit. Don't know how you do the voodoo that you do so well. It's a spell, hell, makes me wanna shoot, shoot, shoot. On your mark, get set, go, let me shoot to the next man in a three-piece suit. I spend all my dough, Ray me cutie, shoot shoo-ba-doobie, like Scooby-Dooby-Doo. I love you in your big jeans, you give me nice dreams, you make me wanna scream, ooh-ooh-ooh. I like what you do, when you do, what you do, you make me wanna shoot. Coming this way, ooh.
S and the P wanna get with me, cool, uh-huh. But I'm wicked, G, yeah. Hit skins whenever quickly, right. I hit the skins for the hell of it, just for the yell I get, for the smell of it. Smelly. You want my ball, here's the hot rod,
hot
12
rod.
Inches to a yard and have you sounding like a big 12 of a 6'2", wanna hit you.
So what you wanna do?
What you wanna do?
I wanna shoot.
C'était la chronique d'Ange le Turc pour le film Deadpool réalisé par Tim Miller, donc qui n'est pas le réalisateur de Scott Pilgrim vs. The World, non. Mais qui aurait pu l'être.
C'était
Edgar Wright. Et donc Tim Miller qui est en fait une société de production d'effets spéciaux numériques et qui a par exemple fait les cinématiques du jeu vidéo Star Wars The Old Republic. Et maintenant... place à la chronique sur Scream, la série développée sans son créateur Wes Craven par Antoine.
Ouais, ça se ressent d'ailleurs dans la série. Donc bon, Scream, donc pas la série de films, mais la série télévisée d'horreur adaptée par Bill Blood-Vogel, Dan Working et Jay Beatty, donc trois personnes pour un si petit bout de série et qui se base, enfin. Qui s'inspire de la série de films Scream, du grand Wes Craven, à qui on doit des films tels que La Colline des Yeux, La Créature du Marais, ou encore Freddy, les Griffes de la Nuit. Wes Craven qui nous a quittés, je le rappelle, le 30 août 2015, à l'âge de 76 ans. Et,
c'est toujours triste.
Ouais, Benjamin était très triste ce jour-là, je m'en souviens parfaitement, il m'a appelé au téléphone.
J'étais démonté.
C'est vrai. Alors, la diffusion de la série Scream, la série... commence en juin 2015 aux États-Unis, puis elle arrive en Europe le 1er octobre 2015 dans les pays francophones pour la plupart, disposant du service Netflix. Alors bon, déjà là, rien que dès le but, on sent le tâtement de terrain, est-ce que le concept il va marcher en Europe, est-ce qu'il va, il va pas s'effondrer. Donc du coup, ils vont du côté de Netflix, ça joue un peu la sécurité, mais bon, on va pas leur tenir rigueur pour ça. Alors, la série Scream est un remake, alors. Benjamin, qui est un grand cinéphile, va savoir nous expliquer concrètement ce que signifie un remake.
Donc vous reprenez la même histoire, ouais. Vous la refaites.
Donc voilà, en gros, c'est une nouvelle version d'un film qui a déjà été porté à l'écran.
Ouais, c'est le remake, c'est exactement reprendre le même scénario ou autre, la même histoire et la refaire. Parfois, on reprend même les mêmes plans, heureusement, enfin, non, Scream parfois le fait.
Oui, Scream parfois le fait, ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de lien entre la série et le film... Et pourtant, L'histoire se déroule dans la petite ville de Lakewood aux États-Unis, où un tueur masqué sème la terreur, faisant ainsi remonter hors de l'eau de terribles secrets. L'histoire de Brandon James, qui a, il y a plusieurs années de ça, fait de nombreuses victimes. Le meurtrier était alors fou d'amour pour une belle demoiselle, qui se nommait Daisy. La fille de celle-ci, Emma, a désormais le même âge que sa mère au moment des faits. Et c'est alors que le massacre commence. Alors bon, c'est un remake. On dira aussi également qu'il n'y a pas de lien vraiment entre la série et le film. Enfin, en tout cas au niveau des références.
Non, il n'y en a aucun.
Mais pourtant, l'histoire, elle se ressemble énormément.
C'est la même.
C'est la même histoire. Sauf que là, dans le film, nous avons Sidney Prescott, et c'est dans la ville de Woodbury, donc Lakewood, Woodbury, on est quand même dans des espèces de petits patelins américains, c'est à peu près la même
complètement,
chose.
Complètement.
Mais c'est pas une raison pour se laisser attendrir quand on regarde Scream, parce qu'en effet, ce que je vous ai écrit ce soir et ce que je vais vous dire, c'est une espèce de critique sur tous les clichés et les références qu'accumule la série. La série est vraiment très très vaste, il est très difficile d'en faire une critique succincte, donc je me suis attaqué à ces points. Donc de ce fait, on a une série qui cache bien son jeu, qui nous fait croire que nous allons avoir des grands moments de
mystère,
du suspense, alors qu'en fait, en réalité, la série ne fait que surfer sur le succès d'une franchise qui n'a déjà plus rien à prouver. Scream 4 qui a montré vraiment l'apothéose de la série
complètement.
Et la conclusion finale. Peut-être qu'il y aura une suite, je ne sais pas, peut-être que Benjamin a des infos.
Bah Wes Craven est mort, du coup c'est mort.
Voilà, exactement. C'était une bonne intervention, Maxi. Merci Benjamin. Et de ce fait, la série nous offre alors un scénario bourré de faiblesses, de rebondissements qui ne surprend pas tout le temps le spectateur. Et surtout, ça cumule de références cinématographiques, aussi bien dans la mise en scène. Donc, il y a un moment dans la série, il y a une référence directe dans la mise en scène à Jason de Vendredi 13 avec la scène du lac. Cette référence est à pleurer, c'est le même plan, c'est à pleurer. Ainsi que dans les dialogues des personnages qui passent la plupart de leur temps à citer un nombre incalculable de classiques du genre, afin de montrer à tous et surtout aux spectateurs qui sont cultivés, parce qu'en effet, c'est vrai que ça les rend beaucoup plus intelligents. Alors après avoir passé le catalogue de films qui étaient énumérés dans la série, en fait, cela ne laisse que transparaître que le manque d'originalité de la part des scénaristes, et en plus, enfin, je vais être un peu cash, mais on s'en fout. On s'en fout complètement. Moi, ce genre de référence abusive, ça ne sert à rien, parce que vraiment, ça montre la faiblesse du scénario, dans le sens où les premiers épisodes ne se basent que sur ça, pour faire avancer la trigue. Et encore, je me permets de faire un parallèle avec les films de Wes Craven, mais dans les films de Wes Craven, on opte pour une dérision du genre slasher.
Donc, on rigole.
Voilà.
Il y a plein d'humour. C'est blindé d'humour.
Voilà, c'est blindé d'humour, et on reprend les codes du slasher et on les met en dérision. Le slasher, bon, j'explique ce que signifie slasher, de l'anglais to slash, qui veut dire tailladé, sectionné, qui est un sous-genre cinématographique rattaché à la catégorie du film d'horreur. Et souvent, l'histoire, c'est un psychopathe qui élimine une bande de jeunes gens avec un couteau ou une arme blanche.
Ouais.
Et de ce fait, je me permets de faire un parallèle avec la série de films. Puisque dans le film, même si nous avons ce mélange justement d'humour et de gore, qui donne un ensemble très hétérogène, au final, on s'amuse, on passe du bon temps et on se prend pas au sérieux. Alors que la série se prend énormément au sérieux. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a l'une des répliques d'un des personnages qui m'a resté marqué. Parce qu'il y a l'un des personnages dans la série qui part du principe que c'est une très mauvaise idée d'adapter un slasher en série.
Ah, je m'en rappelle.
Oui. Car celui-ci risque de s'essouffler, patati patata, et c'est vrai. Alors, je ne sais pas si c'est une marque de confiance des scénaristes qui ont travaillé sur la série, ou si c'est un appel au secours, mais en tout cas, je trouve ça vachement culotté de faire une série slasher pour ensuite dire ce genre de choses.
Ouais.
Mais bon, ça ne me regarde pas moi. Ensuite, pour continuer, pour en finir là avec les références et arriver dans les clichés, il faut savoir que la série se construit à partir des personnages. Uniquement sur ça. L'intrigue en elle-même, au final, ne nous intéresse pas, puisque c'est des personnages que découle l'intrigue, puisqu'on apprend les secrets de chacun et de chacune.
Exact.
Et c'est de là que ça part. C'est ce qui peut être intéressant pour un scénario, ou ce qui peut être une très grosse faiblesse et montrer un manque d'originalité et un manque de confiance aussi dans le jeu des acteurs. Alors, je me suis permis de faire une petite liste des acteurs, enfin, des différents personnages, des différents stéréotypes présents dans la série.
Ça c'est foutu.
Ah ouais. Alors, et je les ai fait dans l'ordre. Alors, Premièrement, nous avons deux sportifs parfaites représentations du beau gosse qui sont vraiment des têtes à claque affreuses.
On a envie de leur couper la tête.
Voilà. Nous avons le beau rebelle sombre et ténébreux, mais qu'on est sûr qu'il a du cœur sur sa carapace de pierre. Nous avons la peste du groupe qui couche avec le prof de lité, suivi du prof de lité qui couche avec la peste du groupe. L'accro au slasher qui est également le petit futé qui se passionne pour les tueurs en série. Après tout, il n'y a pas de mal. Et enfin, la fille qui s'est faite humilier par l'ensemble du lycée suite à une vidéo compromettante avec sa nana. D'ailleurs, cette fille qui est jouée par l'actrice Bex Taylor-Klaus, qui est vraiment extraordinaire dans la série. Enfin, je trouve qu'elle rattrape vraiment le niveau des autres comédiens. Et elle porte vraiment, vraiment toutes les intentions du film. Enfin, de la série, pardon. Parce que les autres comédiens, c'est pas gagné.
Elle est pas mal. Mais le pire est la mère, je crois.
Oui, le pire, c'est la mère. Mais ça, on va laisser aux gens découvrir. Alors, comme j'ai dit avant, niveau jeu, à part Bex Taylor, faut pas s'attendre à grand-chose, malheureusement. C'est pas du grand spectacle. Mais le reste de la bande semble avoir l'envie, du moins la bonne intention, d'en faire trop. Donc du coup, ça rend les scènes assez amusantes.
L'héroïne est pas mal.
Alors oui, l'héroïne, d'ailleurs j'ai oublié de la citer, une héroïne très courageuse, mais qui se révèle être une vraie cruche. Hein, ça faut aussi le préciser.
En fait, elle est courageuse une seconde, et la deuxième, elle pleure.
Voilà, exactement, parce que la vie est dure, enfin voilà. Et c'est vrai que l'histoire n'est pas tendre avec les personnages, puisqu'ils s'en prennent relativement souvent plein la gueule. Faut quand même le reconnaître.
Ouais, c'est gentil.
Mais le problème, et là il y a un problème qui se pose par contre, c'est par rapport au tueur en série, parce que j'en ai pas encore parlé. En fait, le souci justement, c'est que tous ces éléments font que la mythologie du tueur en série de Lockwood, est complètement poussive. Et à la fin, on s'en fout. À la fin, on est plus intéressé par les problèmes de cœur des personnages que par de savoir qui a tué le petit copain de machin bidule chouette. Et c'est vraiment triste parce qu'on perd tout l'intérêt de la série à cause du cumul des références et à cause des clichés. Et au final, c'est ce que, pour conclure, je dirais sur la série, c'est un teen show. C'est vraiment un teen show. On aurait fait une série Twilight, ils auraient fait la même chose.
Exactement.
C'est un mauvais mélange entre une série qui parle d'ado qui se fait traquer par un psychopathe et un drame relationnel qui part de l'amour adolescent et de l'amitié. C'est énorme. C'est bourré de thèmes qui sont intéressants, mais ensemble, ça donne un mélange qui fonctionne pas du tout et qui nous fait dire que cette série aurait pu être quelque chose de super. Mais ce n'est pas le cas, malheureusement. De ce fait, on se contente du minimum en se disant « Bon bah, puisqu'on s'en fiche, de toute façon, on fait une série Scream, tout le monde va regarder. » Et je pense que c'est ce qui s'est dit au moment de la production de la série. Alors, juste dernier problème, c'est que le film se prend grave au sérieux.
Le film ou la série ?
La série, pardon, se prend grave au sérieux, alors que le film, justement, était dans ce second degré, dérision dont on parle.
Le film, c'était une œuvre de science sur le slasher.
Sur le slasher, exactement. Et pour conclure, je tiens à vous annoncer très fièrement, et le cœur sur la main, qu'une saison 2 est en cours de production. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse avec ce mauvais remake, mais aussi mauvais prototype de reboot Scream 2.0, avec la chanson qu'on entend au début du film Scream de Wes Craven, qui est Don't Fear the Reaper de Blue Oscar Cult, reprise par Gus Black.
time is done. Here but now they're gone. Romeo and Juliet are together in eternity. 40,000 men and women every day. Another 40,000 every day. So come on, baby, take my hand. We'll be able to fly. Cause baby, I'm baby, I'm your man. Love, 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 love.
Et voilà, on est de retour sur PFM Radio 99.9 avec les décadrés. Alors ça va toujours les gars ?
Très bien.
Enfin.
Ange toujours à la machine.
Mais oui, toujours.
Bernard il est derrière, il se fout de notre gueule. L'ambiance est là, on s'amuse bien et on est bien chez PFM. Alors on va enchaîner avec notre petit cinéphile préféré Ben. Alors Ben, aujourd'hui tu as décidé de nous parler d'une série fantastique.
Ouais, d'épouvante horreur.
D'épouvante horreur, voilà. Qui s'appelle
H versus Evil Dead.
Voilà. Et pour le nom de la chronique, ce sera les représentations du mal dans H versus Evil Dead et au-delà. On t'écoute, Benjamin.
Alors c'est parti. Une ouverture en fondu, des voix étranges venues et fantomatiques, un mouvement à partir de la forêt, de la nature donc, ici mère de l'enfer. Le plan est loin d'être coupé, car nous avons affaire non pas à une image humaine, mais à une image à la fois subhumaine et au-delà de l'humanité. C'est le démon qui nous montre son chemin, ce qu'il voit, sa chasse, c'est lui qui maîtrise la caméra. Il devrait porter un S, car le démon est à la fois unique et multiple, divisible et corps collectif. Il avance sur un homme qui porte une chemise bleue, grand, beau, handsome, diraient les Américains, et groovy, comme on l'avait entendu à la fin d'Evil Dead de 2012. Il est armé d'un fusil et d'une main tronçonneuse. C'est H versus Evil Dead. Voilà. Voilà pour ce petit générique d'ouverture.
Voilà, donc l'introduction est faite.
Ça, c'était ce que vous avez entendu était le générique composé par Joseph Loduca. ou Deloduka, donc là en mode métal, parce que c'est un épisode qui était un peu plus sur du rock'n'roll, pas sur du rock hard rock. Donc dans Ash vs Evil Dead, qui est sorti en octobre 2015, le héros coloré et surtout très bloody est revenu pour une ultime, la question est là, aventure pour combattre les forces des ténèbres dans une série télévisée avec Sam Raimi aux commandes, accompagné par son frère Ivan Raimi et le producteur Robert Tapert, 33 ans après le premier volet de la trilogie originale. Dans la série, on retrouve Ash, toujours avec le génial Bruce Campbell, plus en forme que jamais, qui a lui-même déchaîné les forces obscures en lisant le Necronomicon, ou Livre des Morts, dans une soirée arrosée et sexuée, je n'en dirai pas plus, et les apparitions démoniaques dans la trilogie originale s'emparait du cinéma de deux manières, du champ de la caméra en la contrôlant, et à l'intérieur de l'image en possédant des corps humains que le mal aura auparavant meurtri, de manière plus ou moins puissante, on n'en dira pas plus, comme si les corps des acteurs et leur caractère charnel, organique, permettaient au mal de dépasser l'immatérialité de l'image de cinéma. Bien sûr, matériel, puisque technique, mais pas organique, voilà. La série pousse cette brillante et folle idée de Sam Raimi dans le sens où on trouvera de nouveaux démons aux nouvelles particularités. L'un d'entre eux, à la fois présent et absent grâce à un cercle vaudou, un cercle spirituel, réussira à rentrer dans le monde physique car le cercle aura été brisé. Et sa force sera de dominer l'esprit des personnages, de les paralyser, l'image subissant alors son pouvoir. C'est-à-dire que l'image est complètement folle, elle ne sait plus où elle va, elle est maîtrisée par le démon. De même que des enfants nés du mal se camoufleront dans les ténèbres de l'intrigue. A noter qu'ils sont nés à partir du corps de Pablo, l'un des compagnons d'Ash. Oui, quand vous entendez ça, c'est un peu bizarre.
Pablo, il est dans le film.
Pablo, c'est le jeune compagnon d'Ash dans la série.
Ah, dans la série, je pensais qu'il y avait un rapport avec les films. Voilà.
Donc les petits enfants tout noirs, plein de goudron, j'espère qu'ils sont pas morts, naissent à partir du corps de Pablo en sortant de son corps, là ça devient bizarre, par la mâchoire.
Par la mâchoire.
Ouais, c'est assez joli.
Ça fait penser un peu à Alien.
Il y a un côté The Thing aussi. L'humain devenant un passeport pour le mal que... L'image pouvait empêcher, contraindre, justement au statut de l'image, l'empêcher de sortir de ça et intégrer notre monde réel. Donc voilà pour Ash vs Evil Dead.
Alors du coup, mais la série Ash vs Evil Dead, on en est à combien d'épisodes?
On en a 10 épisodes de 30 minutes. Alors ce qu'il faut savoir pour Ash vs Evil Dead, c'est que c'est la suite de L'Armée des Ténèbres, oui, donc troisième volet de la trilogie. Qui devait arriver au cinéma, mais le problème c'est que au cinéma, il y a notamment en Amérique, il y a beaucoup trop de règles, beaucoup de contraintes. Il faut du budget, etc. Et Rémy, lui, voulait être complètement libre, donc il avait une certaine liberté sur une chaîne télévisée, donc à qui il avait bossé pour Xena la guerrière et Spartacus, donc les deux séries. Et du coup, il s'est dit pourquoi pas faire la suite en série.
D'accord.
Et c'est un énorme film de 3 heures.
Un énorme film de 3 heures. Et il y aurait une autre saison ou la première saison?
Ah, c'est sûr.
Une autre saison,
ouais, c'est sûr. Oui. Alors la fin amène à une autre saison, même si, pour être franc, on peut regarder la saison pour elle-même. Et bien sûr, la fin de la première pourrait rappeler celle de. Enfin, une des fins du troisième film. Donc ce qui est assez amusant. Et.
D'ailleurs, est-ce que ça peut être intéressant pour les gens qui nous écoutent de le savoir, ça se base sur quel... Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Evil Dead, il y a trois types de fins. Il y a trois fins alternatives, il me semble. Et je voulais savoir, est-ce que tu pouvais nous dire sur laquelle de ces fins ça se base?
Ça se base sur la fin comme quoi Ash travaille dans un supermarché, voilà. La fin apocalyptique, c'était pour le fantasme. Mais... peut-être qu'elle va arriver dans la série.
Très bien. Et là, c'était...
C'était les décadrés, pardon.
Ah, non, mais je vais pas dire ça, mais oui, c'était les décadrés.
On vous laisse avec une des musiques de la série qui est de Deep Purple.